RMC Football Show, Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct. L'After après cette soirée à la fois de Coupe de la Ligue, mais aussi de barrage, retour de Ligue des Champions. L'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Messieurs, dames, ils sont là. Alors, le retour des fils maudits de l'After. Le duo infernal, quoi. Daniel Riolo, bonsoir.
Salut les amis.
Et Jérôme Rotten, bonsoir.
Salut les amis.
Vous vous êtes manqué?
Pendant les vacances?
Ouais.
Bon, moi pendant les vacances, même toi tu me manques pas. Donc moi je coupe pendant les vacances. Hein. Bah après quand je vous retrouve, je suis content de vous retrouver.
Et toi Jérôme?
Les vacances en famille.
Moi,
il
m'a manqué. Il m'a manqué. Attends, jour et nuit, j'ai pensé à Daniel pendant la première semaine. Ah, la première semaine de après la Coupe du Monde,
même
bien sûr.
Même pendant que t'étais dans toutes tes terrasses là sur la Côte d'Azur.
Ah là, par contre, je les ai mangés. Ah,
bah, il paraît qu'il y a plus un Perrier dispo sur la Côte d'Azur tellement
Perrier rondelle. Ah ouais, je me suis inspiré de
River.
Ah bah ouais, ouais. Ah, j'étais pas loin. Hein.
Ouais,
j'étais à Cannes. Donc,
messieurs, résultat si vous le voulez bien. Deuxième tour de la Coupe de la Ligue ce soir. Je vous donne le résultat vite fait. Lorient s'est qualifié en battant Ajaccio 1-0. Orléans se qualifie au tir au but 1-0 face à Nancy. Nancy, ils sont très mal. 5 tirs au but à 4 pour les Orléanais. 3 se qualifie en battant Clermont 3-1. Le Havre se qualifie après un match dingue. Les Havrais menaient 3-0. Ils se font rejoindre 3-3. Et finalement, ils se qualifient 7 tirs au but à 6. Auxerre élimine Châteauroux 2-1. Et ce soir, donc, Metz se qualifie au tir au but à Lens, 1-0. Et 5 tirs au but à 3. Je rappelle qu'il n'y a pas de prolongation dans ces matchs de Coupe de la Ligue.
Heureusement. Quelle belle idée.
Voilà, c'était une innovation de l'année dernière.
C'est plutôt pas mal, ça
évite quelques purgeasses.
Exactement. Voilà.
Et puis la Ligue des Champions. Je vous signale à l'instant la qualification. Oui, mais c'est la Ligue des Champions quand même. Il y a la musique et tout avant les matchs.
L'Ajax s'est qualifié.
L'Ajax vient de se qualifier.
Et les jeunes garçons.
Eh aussi.
Alors, attends. C'est fini. Le seul match pour l'instant terminé, c'est Dynamo de Kiev Ajax 0-0.
Ajax qualifié.
L'Ajax avait gagné 3-1 à l'aller. Qualification de l'Ajax donc en phase de poule de la Ligue des Champions. Ça faisait un moment qu'ils y ont pas été. Hein, L'Ajax
ils sont
en poule
heureux,
de Ligue des Champions.
En poule.
En poule, ouais, faudrait rechercher, on va regarder.
Ah non, c'est pas longtemps, ils sont tombés dans le groupe du PSG.
Il y a 2-3 ans.
Zlatan était encore au PSG.
Non, il y a 3 ans.
Pas si longtemps que ça.
Et puis ils avaient été, rappelez-vous, en finale d'Europa League aussi, l'Ajax, il y a pas si longtemps que ça, en éliminant Lyon. Et puis actuellement, la petite surprise du soir, c'est que bon, le Dynamo Zagreb avait fait 1-0 aux Young Boys de Berne, donc on se disait, bon, ils sont peut-être mieux placés que les Suisses, et finalement, Guillaume Haro a mis un doublé. 2-1 pour les Young Boys de Berne. On est dans le temps additionnel dans ce match. Et donc, là maintenant, il faut que les Croates marquent deux fois. Hein. Donc, les Suisses sont bien partis pour être en phase de
Dynamo
poule.
Dynamo Zagreb, en plus, c'est facile. Hein.
Les Young Boys de Berne n'ont jamais participé à la phase de poule de la Ligue des Champions.
On propose une mallette, comme Lyon à l'époque, et c'est facile contre Zagreb.
Ah, avec la Casette, il n'est pas mis un...
Mais non, ils ont un Gomis.
C'est Gomis, il a mis 4 buts.
Mais ils en avaient mis combien?
Non, mais la Casette, il est marqué. Ce jour-là. 7-2, non?
Ouais, c'est ça.
Mais non, il n'y avait pas eu 2 contre.
Non.
7-1.
Je pense que c'est plus 7-1.
C'était lourd, ouais.
Bref.
Mais 8.
Et puis le dernier match. Le dernier match du soir, c'est AEK Athènes Vidéoton. Enfin, Vidéoton s'appelle maintenant Vidi. Bon. Les Vidéoton, ça rappelle des souvenirs au PSG à Bordeaux. Il y a actuellement 1-0 dans ce match. À l'AEK avait gagné 2-1. Donc pour l'AEK Athènes, bien parti.
Vidéoton, là, s'il gagne, il se retrouve dans les poules. Dans le chapeau 4.
Bah oui, t'as bien compris.
Ah, quand même.
En fait, la Vidéoton, s'il marque, c'est les prolongues. Parce qu'il y a 1-0.
Exactement. Et on est la 6e minute du temps additionnel.
C'est bien, c'est mieux quand il y a un club français dans ces barrages-là. On s'y intéresse un peu plus et tout. Cette année, ça fait un peu luxe.
Sur Lyon-Zagreb, il y avait eu 7-1. Et c'est le fameux soir où le célèbre Noël avait appelé l'affaire.
Bah, évidemment, c'est pour ça que je faisais référence à ça. Le coup des mallettes.
Ah ouais.
Non, mais je dis, c'est quand même mieux hein, quand on y est. Ça va permettre de s'intéresser un petit peu plus.
Bah non, suspense. C'est pas mieux. Là, cette année, on a la garantie d'avoir 3 clubs en poule.
Non, mais c'est mieux. Et quand on passe, ça fait quelque chose de chaud fin août. Là, on est un peu, on regarde ça, limite avec un peu de dédain, genre oh nous ne passons plus par les barrages. Nous sommes luxe, nous avons 3 équipes directement.
Bah non, bah, c'est une bonne nouvelle pour le foot français.
Bah, évidemment que c'est bien.
On va pas pleurer quand même.
Non.
Alors, justement, je voulais démarrer par
les chapeaux.
Les chapeaux.
Ah bon, bah là.
pourquoi on démarrer par l'échappement?
Là, on est mal barré.
Déjà, un, parce que je suis un spécialiste. Ouais. Voilà, première raison. Mmh. Deux, parce que jeudi, le tirage au sort sera dans Team Dugas. C'est à 18h, ça tombe très bien. Donc, il y aura un Team Dugas spécial tirage. Tirage en intégralité, les réactions et tout, on sera sur place.
Ils t'ont mis sur le coup?
Avec toute l'équipe.
Si tu te mets dessus, ça peut plomber l'émission, comme ça on le sait direct, quoi.
Non, c'est moi qui suis.
Ah, d'accord. Bah,
pourquoi ça plomberait? Moi, je me réserve. Moi, je serai dans l'after jeudi pour analyser.
Une fois que c'est tombé, ouais, qu'il y a plus qu'à lire, oui,
normalement,
t'aurais eu
3 heures pour bien préparer.
Que ce soir, tu mets une équipe dans un mauvais chapeau, ça, c'est...
Écoute, on va voir.
C'est parti, déjà.
Il y a un dossier complet.
Vas-y, envoie le chapeau 1, on sait ça.
Chapeau 1, Real, Atlético, Barça, Bayern, City, Juve, PSG, Lokomotiv, Moscou.
Tu vas vite, là, quand même.
Ouais, mais en même temps,
tous les champions, plus le Real. Et
chapeau 2, Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Naples, Tottenham, Rome. Peut-être Benfica, s'ils se qualifient demain. Mais c'est mal barré. Parce qu'ils
ça
ont fait
dégager quelle équipe?
Ils ont fait un partout.
Et quelle équipe
ou
ça
peut-être
enlève,
Liverpool.
Et ça enlève quelle équipe?
Alors, attention, parce que si le PAOK élimine Benfica, le PAOK serait chapeau 4 et ça remettrait Liverpool dans le chapeau 2. Parce que Liverpool actuellement dans le chapeau 3.
Épouvantail. Liverpool avec leur finale.
Ils restent là pour l'instant.
Épouvantail dans le chapeau 3, tu dis.
Bah pour l'instant, ils sont dans le 3.
Mais pour nous les Français, vaut mieux qu'ils restent dans le chapeau 3.
Ah bah oui, puisque
parce
Lyon et Monaco
et Lyon
sont dans le 3. Chapeau 3 pour l'instant.
Tu veux dire à 2 sur 3, parce que si le PSG prend bonne équipe chapeau 2 et chapeau 3 Liverpool, oui, t'es pas bien.
Oui. Chapeau 3.
Tant qu'il y avec l'Inter du chapeau 4,
chapeau 3 Valence, pour l'instant, Liverpool, Ajax, Schalke, Lyon, le CSKA Moscou, Monaco, peut-être Salzbourg et peut-être le PSV demain soir. Et chapeau 4, alors il y a quand même deux gros clubs dans le chapeau 4, c'est Valence et l'Inter, plus quelques petits, la Pilsen, Bruges, les Young Boys désormais, Galatasaray qui n'est pas un petit club, et donc la EK Athènes, plus Hoffenheim, présenté par David Lorto comme la surprise de l'année en Bundesliga, donc à confirmer. Je vous ai juste fait les poules de la mort. Poule de la mort de Paris, je vous en donne une, qui est possible. Naples, Liverpool, Valence.
Mmh. Oh, tu t'as pas dans le chapeau 2, t'as pas un peu plus fort que Naples?
Ah bah dans le chapeau 2, bah je peux te mettre quoi dans le chapeau 2?
Je peux te mettre Man United, ou je peux te mettre un petit Borussia
Dortmund, si tu veux.
Ouais, ou ce sera pas simple, c'est sûr.
Ou la Roma avec Pastore qui revient.
Ce sera pas facile aussi.
Ouais. Je vous fais le groupe de la mort de l'OL, ça peut donner Atlético, Tottenham, Inter.
Franchement, à partir du moment où t'es dans le chapeau 3, t'es pas obligé de... Enfin, parler de chapeau 3, c'est une évidence que ça va être très compliqué.
Dur.
Ça sera très compliqué pour Lyon, quoi qu'il en soit. Quand
et Monaco,
dans le chapeau 3.
Ça peut être Atlético, Naples, Hoffenheim.
La seule chance, entre guillemets, pour les Monaco et Lyon, c'est de se choper dans le chapeau 1, Moscou.
Voilà.
Moscou, ça
alors
paraît.
Il faut vraiment que tu fasses un tirage Chatar.
Je l'ai fait.
Le chapeau Chatar.
Ouais. Le facile pour Paris, ça ferait Shakhtar, CSKA Moscou, Pilsen.
Ça peut exister, ça.
Ouais.
Alors là, c'est
jackpot, messieurs dames. S'il te plaît, non.
Le groupe jackpot, messieurs dames, pour l'OL, ce serait Lokomotiv Moscou, Shakhtar et Bruges.
Ah oui.
Oui.
Et le groupe jackpot, messieurs dames, de Monaco.
Monaco.
Ou bien Young Boys de Berne, tiens. Voilà. À la place de Bruges.
Mmh. Exactement.
Voilà. Très bien. Vous retrouvez tout ça
et
sur
demain, il y a la suite des barrages avec d'autres équipes qui doivent intégrer les chapeaux.
Alors, il pourrait y avoir le PAOK Salonique, ça ferait deux clubs grecs, ce qui n'est jamais arrivé depuis une éternité, là. Du grand temps d'Olympiakos, c'est pas Athénaïque.
Mais attends, le PAOK, il joue pas contre.
Benfica.
Mais ils ont fait nul à Benfica.
Un partout. Donc, ils sont quand même bien placés. Je rappelle que le PAOK, il y a quand même le président du club qui est descendu sur la pelouse avec un flingue, à la fin de la semaine dernière.
C'était lui, oui, c'est vrai.
Donc, il est chaud, le gars, là. Je sais pas s'il est là demain, je crois qu'il a dû être suspendu, je pense, mais en championnat, en Ligue des Champions. Voilà, tout ça demain soir. Bien sûr, demain soir, on refera un chapeau. Vous constatez évidemment que, comme de coutume, j'ai fait un sans faute. C'est vrai.
C'est notable.
De toute façon, là, il y a
même c'est
un
demain,
sans faute.
C'est demain vais, que vraiment y a, on, va, y a on pas, prendra la mesure. C'est demain.
Il n'y a pas de... La seule chose qui peut changer, c'est Liverpool qui passe dans le chapeau numéro 2.
On va donc passer au mercato.
Très dur, hein.
Au programme, il y a le mercato. Il y a Bordeaux. On va en parler. Je veux également ce soir.
Ah, on me signale déjà une erreur.
Ah bon, laquelle?
Bah, je suis désolé.
Mais... Ah bon, bah, je suis désolé, mais il va falloir que tu me le prouves.
Bah, ah, merde, j'ai effacé. Il paraît on peut pas avoir dans un même groupe un Russe et un Ukrainien. Eh oui, monsieur.
Ah ben, ça commence
voilà.
bien.
Voilà.
Ça commence bien. Et tu lui as dit un sans faute, tout de suite, il rigole de sa connerie.
En même temps.
Il se dit, c'est vrai.
Il est vrai que cette petite règle, comment dirais-je? Il fallait quand même s'en souvenir.
Eh ben, écoute, tu sais bien que ceux qui nous écoutent sont précis et ça, ne laissent pas passer.
Attention, ça c'est pas une erreur de chapeau.
Ah bah tu nous as vendu.
Ça c'était une poule potentielle.
T'as vendu un chapeau.
C'est pas une erreur de chapeau.
T'as vendu une
c'est
poule.
C'est une erreur de projection.
Mais ta poule était mal habillée. Désolé.
Appelle François Manardeau direct.
Mais il n'y avait pas d'erreur dans les chapeaux. Je tiens à le dire.
Bon.
Allez, on a un jingle mercato ou pas ce soir? Non, parce que souvent on n'a pas de jingle mercato, puis des fois il revient. Je crois qu'on en a un jingle mercato.
C'est combien?
30 000.
Attends, je vais te le marcher.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Alors, avant de parler des infos du jour.
On signale une autre erreur.
Pardon?
On me signale une autre erreur.
Ah, laquelle?
Valence serait dans le chapeau 3.
Ah non, Valence est dans le chapeau 4.
Écoute.
Donc tu signaleras aux gens qui se signalent des erreurs que ce sont des malfaisants.
Bah écoute, la première erreur.
Voilà. Avant de parler des infos du jour, et notamment de Strootman présenté à Marseille aujourd'hui, chacun pourra donner son point de vue.
On est en 24 heures de retard, mon ami, là, quand même. On était un peu hier sur Strootman, déjà.
Oui, mais là, il était présenté, donc il s'est exprimé. Donc il a dit des choses intéressantes.
C'est
et en plus, Jacques Henri Arroux est arrivé avec son PowerPoint, comme d'habitude.
C'est vrai.
Important, le PowerPoint de Jacques Henri, toujours. Je voulais quand même vous faire partager un truc. Vous retrouvez ça sur rmcsport.fr.
On me signale une autre erreur.
Laquelle?
Porto peut pas être dans le chapeau 2. Ils sont champions, non?
Oui, mais attends, mon petit gars. Je te signale que ça se joue. Il y a que combien de places, à ton avis, dans le chapeau?
Ça se joue à l'indice. Il y a l'indice UEFA.
Et donc, ils sont 8, ils sont 8e.
Donc, c'est pas une erreur. Donc, encore un malfaisant. Donc, tu pourras le renvoyer.
C'est pour ça que Moscou est dans le chapeau 1.
Parce que les Russes sont passés devant les Portugais à l'indice.
Exactement.
Très bien.
Oui, alors je reviens à mon info record de vente en Ligue 1, parce qu'il s'est passé un truc quand même assez étonnant, peu souligné pendant ce mercato d'hiver, c'est que beaucoup de clubs ont battu leur record de la meilleure vente de leur histoire. C'est quand même révélateur de quelque chose, ça. Je vous prends la liste. Seri, vendu 30 millions par Nice, record de vente de Nice. Guedes, vendu aujourd'hui 40 millions, record de vente de PSG. Jamais le PSG n'a vendu un jour aussi cher.
Mais je crois que c'était plus que 40.
Un mec, globalement, combien de matchs il a fait?
Combien tu m'as dit, Guedes?
40.
Non, mais plus. T'es sûr que c'est que 40?
C'est le chiffre, en tout cas. Il y a des bonus, parce qu'il y a, je crois qu'il y a 7 millions de bonus.
Je crois que c'était au-delà de 50, toi.
Ah, non, mais
peu importe, on s'en fout.
Rapporté au nombre de matchs qu'il a joué avec le Paris Saint-Germain.
C'est une discussion d'oseille, c'est pas tellement intéressant.
C'est exceptionnel.
Mais aujourd'hui, le marché, c'est comme ça.
Record de vente du PSG.
Je te signale, à partir du moment où, dans un mercato, Zambo Anguissa est vendu 30 millions, je veux dire, le reste peut pas être flippant.
Diop de Toulouse, 25 millions. Diop de Toulouse, 25 millions. Meilleure vente de l'histoire de Toulouse. Malcolm.
40 millions.
D'ailleurs, aujourd'hui, on m'a rappelé dans un message que tu avais parié avant la Coupe du Monde que jamais il serait vendu plus de 25.
Alors, il faut quand même préciser sur... c'est vrai. Non, pas que ça n'atteindrait jamais 40. J'ai perdu un déj. Et en fait, il y a le bonus, parce que c'était 38,5, je crois. Il y a un truc qui monte à 40.
Les bonus, il faut les compter.
Il faut savoir que Baptiste Le Caplin, de sa poche, pour gagner le déj, parce que j'ai parié avec lui,
a mis un million.
C'est lui qui a rajouté un demi-million.
Ouais, c'est ça, ouais.
Il a rajouté le demi-million qui lui permet de gagner le déj contre moi.
Très bien.
Voilà, il faut le préciser, sinon on n'atteignait jamais les 40.
Je continue. Moukielé, vendu par Montpellier, 16 millions, meilleure vente de l'histoire du club. Toko Ekambi, vendu 18 millions par Angers, meilleure vente de l'histoire du club. Aoulou, vendu 14 millions par Strasbourg, meilleure vente de l'histoire du club. Donc il y a eu des ventes incroyables cet été.
Ouais.
Et voilà. Qu'est-ce que tu en tires de ça? Pourquoi tu nous signales ça?
Alors, justement, c'est ça que je veux en venir. Qu'est-ce qu'on doit en tirer? Est-ce que c'est le marché qui devient dingue? Est-ce que c'est nos clubs français qui ont un nouveau savoir-faire dans les négociations commerciales et qui
dans ces ventes, il y a des clubs français qui ont acheté.
Truc, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent?
Voilà. Alors, d'abord, il y a eu ce phénomène-là qui qui avait été moins brutale, qui est pas arrivée d'un seul coup après post 98. Une victoire en Coupe du Monde pour un pays, effectivement, ça attire
les yeux sur toi.
Ça met en lumière, effectivement, ça attire. Je pense que les clubs français vont pouvoir croquer là-dessus pendant pas mal de temps, et je pense que ça leur a été très bénéfique. Maintenant, il faut se souvenir qu'à l'époque, l'argent avait souvent été très mal utilisé, ça n'avait pas eu de répercussions sur notre championnat, parce que quand on me dit souvent, t'as les mecs qui utilisent l'expression les clubs sont pillés, tout ça, j'ai toujours trouvé que c'était absurde, parce que à partir du moment où si je vais chez Jérôme et que je lui achète sa télé à un prix plus fort qu'il ne l'a acheté, il sera content, je pense. Ouais. Et il ira s'en racheter une ou il fera autre chose avec l'oseille. Donc le tout, c'est de savoir comment tu utilises l'argent que tu rentres dans les caisses, et visiblement là il y en a beaucoup. Si cet argent est mal utilisé, bah ça ne fera pas avancer notre championnat. Il y a aussi l'autre élément, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui vivent de la vente des joueurs et qui n'ont pas forcément envie de réinvestir. Ça, c'est plus problématique et plus inquiétant. C'est en plus, j'ai l'impression, le modèle économique de pas mal de clubs maintenant. Donc finalement, une fois que tu as aligné tes chiffres, c'est qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est ce qui se passe derrière qui doit être suivi de près. Voilà.
Eh ben écoute, on va suivre désormais.
Enfin, de toute façon, sur la hauteur de ces transferts, alors c'est vrai qu'il y a des choses ahurissantes. Daniel parlait de Zambo Anguissa, 30 millions d'euros. Bon, après c'est le marché anglais qui fausse un petit peu tout aussi, parce que les Anglais achètent très cher. On le voit parce qu'ils ont des moyens.
Vous focalisez sur Zambo, mais enfin Guedes quand même.
Non, mais là, je te parle du marché anglais. Et forcément, quand les Anglais achètent à un certain prix, les clubs français, ils sont pas trop cons. Même quand il y a un club espagnol ou un club italien ou un club portugais ou autre qui veulent acheter, ou même à l'intérieur de la France, parce que Strasbourg, tu parlais d'Arlo, il est parti à Monaco, donc ils achètent forcément plus cher.
Acheter 500 000, vendu 14 millions.
Non, mais ça c'est bien. Mais c'est logique qu'ils fassent une plus-value. Le joueur a montré des choses intéressantes l'année dernière. Que Monaco, ça me choque moins, si tu veux, qu'ils mettent 14, 10, 14, 15 sur un joueur comme ça, parce que c'est un jeune joueur et en signant à Monaco, s'il continue,
ils vont revendre 30 si tout va bien.
Non, mais s'il continue à progresser comme il l'a fait sur une année avec Strasbourg, ça a été impressionnant. Bah oui, ça sera un bon coup. Mais les clubs comme Valence, par exemple, qui achètent 40 millions d'euros à un joueur comme Guedes, je veux bien qu'il ait fait des choses intéressantes l'année dernière en Espagne. Surtout,
13 matchs avec le PSG.
Ouais, mais j'ai l'impression
plus grosse vente de l'histoire du club.
C'est considéré comme une somme moyenne. Hein.
Quand on parle d'un club qui est très... Valence, quand même. C'est un club qui fait la Ligue des Champions, certes, mais bon, 40 millions, ça recommence à représenter.
Faut pas trop rationaliser. Faut pas trop chercher à comprendre comment...
Écoute, tant mieux pour le PSG, dans tous les cas. Parce que le PSG avait acheté très cher Guedes, déjà. Parce que Paris souffre de ça.
C'est 57, bonus compris, machin, les 40 plus 10 plus 7, en gros. Alors, ça fait un truc
à Valence. Si tous les bonus sont atteints, ça fait 57 millions.
Mais c'est quoi les bonus?
Bah en fait, il y a un bonus facilement atteignable, on n'a pas les détails là, mais ce qu'on sait, c'est un bonus assez facilement atteignable de 10 millions, et un bonus plus compliqué à atteindre de 7 en plus.
Je pense que celui qui est compliqué, je sais pas lequel c'est, à mon avis, il atteindra pas celui-là.
Bon, bah, en tout cas, t'as 40 de base.
J'ai encore vu. Moi, j'ai peut-être fait une fixette sur lui, mais entre ce qu'il nous avait montré, le peu de fois au PSG, après, il est parti à Valence, il a fait un très bon début. Mais alors, la Coupe du Monde. Oh! La Coupe du Monde, mon Dieu.
La Coupe du Monde, il est très mauvais. On peut mettre ça sur le compte, peut-être. Hein, ouais. Je sais ça. Il avait l'air très très stressé quand il.
Ah jouait. Oui, non, certainement.
Il était un peu sous pression. Ouais, Daniel, l'impression, il était à côté de Ronaldo. Il passait son temps à le regarder.
Ouais, mais bon, d'un moment, je veux bien que sur un match arrive.
Non, mais je
sais
pas que c'est une bonne excuse, mais il avait l'air de. Maintenant, on va voir ce que ça va donner la Valence. Et puis après tout.
On s'en fout. Oui,
Valence l'a acheté. C'est leur stratégie à eux. Ils mettent beaucoup d'argent sur le joueur. Visiblement, ils l'ont beaucoup aimé l'année dernière.
Alors, passons maintenant aux événements du jour. Et on vous attend, supporters marseillais, si vous voulez réagir, parce que vous allez entendre dans quelques instants Jacques-Henri Hérault parler de la fin du mercato marseillais. Donc il est venu avec son PowerPoint comme d'habitude, pour présenter Strootman comme un grand joueur européen. Strootman qui a dit que c'est vraiment Rudy Garcia qui a fait le truc, parce que c'est un entraîneur spécial pour moi. C'est lui qui m'a fait venir à Rome. Il m'a maintenant fait venir à Marseille. On a parlé de système de jeu. Voilà, et j'espère qu'on sera aussi heureux ici qu'on l'était à Rome. A dit aujourd'hui Kevin Strootman,
donc
qui est donc dans sa famille Catherine.
Des claques à l'un.
Des claques. Normal, hein. On voit des images du PowerPoint de Jacques-Henri Hérault là sur RMC Sport News, suivi de.
Il a vraiment écrit un joueur d'expérience rompu au très haut niveau. Il a vraiment fait un PowerPoint pour dire ça. Donc. Là, c'est donc ça, c'est sérieux ça. Le profil idéalement recherché
la troisième
au milieu,
ligne, un mental à toute épreuve.
Épreuve, une force de caractère.
Voilà.
Donc, en plus, c'est pas lui qui a écrit ça directement, donc il a des assistants, ils ont fait des phrases aussi nanars sur un PowerPoint. Ça, c'est quand même, là, j'avoue que je comprends pas trop le procédé, là.
C'est Jacques-Henri Hérault, il aime bien, et à chaque fois, il fait un petit
donc,
PowerPoint.
En fait, il fait ses fiches, mais bon, il est en conférence de presse, donc il y a des journalistes face à eux, ils pensent que les journalistes savent pas tout ça, quoi. Mmh. Que le mec, il a non, joué des matchs,
il donne les, comme on dit en politique, les éléments de langage aux journalistes. Qu'après, les journalistes arrivent et disent, lors du premier match de Strootman, c'est quand même un joueur qui a un mental à toute épreuve.
Non, mais. Alors je guette, alors à partir de maintenant, je me mets à l'affût du premier match et si j'entends la phrase, il a un mental à toute épreuve.
Non, mais moi, ce qui me dit.
J'attends que cette phrase tombe un jour.
Après, il a cette stratégie-là, bon, écoute, il n'y a pas de problème, mais quand tu présentes un joueur comme Strootman, qu'il annonce lui, je veux pas dire que je le pense pas, hein, mais qu'il annonce lui comme un grand joueur européen, mais comment tu mets ses stats comme ça? Non mais franchement, au bout d'un moment, c'est comme si à l'époque, dans ces cas-là, à chaque recrue du Paris Saint-Germain, on t'annonce, bon bah Zlatan Ibrahimovic, tant de matchs là, c'est la même chose pour Strootman. Strootman, c'est une référence pour
en
le
fait,
président.
Tu le présentes comme si c'est pas.
Exactement. Quand c'est un jeune joueur,
il n'y a pas besoin de faire ça.
Si, s'il le fait avec le Croate, le jeune Croate qu'ils a pris derrière, ou le jeune Serbe.
Oui, mais comme le mec a rien fait dans ce cas-là sur le PowerPoint,
c'est un peu compliqué, ouais. Ouais. C'est peut-être un peu compliqué, mais bon, franchement.
Après, j'imagine la Juve qui fait ça avec Ronaldo quand il le présente.
Ah bah.
Bon alors, le PowerPoint numéro 1.
Ah bah tu passes la journée, exactement.
Il change les pages, sans arrêt.
Non,
franchement.
Écoutez, c'est surtout ça qui est intéressant, Jacques-Henri Hérault qui parle maintenant de la suite du mercato marseillais.
Ah.
Je pense qu'on a fait ce qu'on voulait faire. Sur le numéro 9, nous n'avons jamais annoncé notre volonté de recruter un numéro 9. Il y a eu l'épisode Balotelli sur lequel je ne vais pas revenir, mais c'est cette opportunité qui s'est présentée et qui a fait que sans aucune pression, on a voulu voir jusqu'où on pourrait aller. Ça ne s'est pas fait. Ce qui était nécessaire pour nous, c'était un joueur par ligne, un milieu plutôt défensif, un défenseur central, ça on l'a dit depuis longtemps, et puis un jeune joueur au profil très offensif, très rapide, et on est très content d'en être arrivé là déjà.
Non, mais tu vois, voilà. Écoute. Bon, tout va bien, hein. C'est bien Marseille, c'est super Strootman, on est super content. Ils ont fait une belle saison, il y a pas de raison que ça se passe pas bien cette année. Je critique, mais t'es pas obligé de prendre des gens pour des cons. T'es pas obligé de mentir comme ça. Ça va, tu vois, même un homme politique oserait même plus sortir de tel mensonge. Arrête, mais t'es pas obligé. Personne dit tu t'es planté, on n'a pas trouvé le neuf. Mais dis la vérité, bordel. Est-ce que t'es obligé de mentir? C'est comme ils font la compète avec Olas, celui qui va mentir le plus.
Bah après c'est vrai que c'est pas très glorieux d'arriver en disant on n'a pas été capable de trouver un avant-centre.
Bah excuse-moi bah, mais attends.
Tu crois que les supporters de l'OM ils sont cons?
Ils le savent.
Mais au contraire, c'est bien, t'arrêtes, tu dis bon écoutez, on est ravi d'avoir Strootman, franchement en plus vraiment hein, c'est un sacré coup quoi pour l'OM. Bon ben le 9, on s'est mis sur Balotelli, les négociations ont pas pu aboutir. Je lui demande pas de baisser le pantalon et de se fouetter en public, il dit les négociations ont échoué. Après il est libre de dire c'est pas de ma faute, c'est pas en plus bien sûr, mais viens pas mentir en disant nous n'avons jamais voulu le numéro 9. Arrête de nous prendre pour des idiots.
Le problème qu'il a, c'est que
l'année dernière, personne n'y croit. Alors, je lance un appel. Jérôme. Est-ce que quelqu'un croit à ce qu'a dit Hérault sur on n'a jamais voulu de neuf?
Bon, moi, déjà,
on va demander à Jamal dans quelques secondes.
Je pense que oui, c'était une des priorités, le numéro 9, de toute façon, et que l'année dernière, ils se sont plantés parce que on sait les négociations et à la fin, ils étaient obligés de prendre quelqu'un, ils ont pris Mitroglou. On a vu ce que ça avait donné. On voit ce que ça donne depuis le début de saison. Et si le président de l'OM aujourd'hui, il est satisfait du rendement de ses deux attaquants, je mets Germain aussi dedans, eh ben là je me pose de grosses questions quand même, parce que c'est ce qu'il est en train de nous dire en fait. Aujourd'hui l'équipe elle est comme il voulait,
on n'a pas besoin. Les deux qui sont là sont bons.
Exactement, voilà. Ça nous satisfait. Alors c'est possible, mais bon, je pense pas qu'aujourd'hui, quand tu vois le rendement de Germain et de Mitroglou, que le staff
déjà rien que le staff soit content de ces deux joueurs là, et ça met aussi en difficulté l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie aussi des chantiers de cette équipe. Si elle veut continuer sa progression, ça passera forcément par l'arrivée d'un numéro 9. Et qu'aujourd'hui c'est difficile de dire on a échoué sur Balotelli. On a échoué sur les autres qu'on voulait aussi, parce que mine de rien, et ça je pense que c'est l'actionnaire, le propriétaire du club qui a les finances et qui met l'argent sur la table, il a beaucoup dépensé, hein, peut-être trop à son goût, et qu'aujourd'hui pour attirer un numéro 9 digne de ce nom qui va t'apporter un plus, c'est trop cher.
C'est trop cher,
mais c'est pas dur de le
ça
dire.
Ça c'est vrai, mais il n'empêche qu'ils se sont enfermés l'année dernière avec cette histoire. Ils s'en sont sortis parce qu'au final, ils ont mis beaucoup de buts, même avec deux...
L'argument principal de Garcia, d'ailleurs.
Exactement.
Pour te dire que c'est pas bon.
Mais ça se tient. Du coup, on peut pas trop le contredire là-dessus. Mais il n'empêche qu'ils se sont enfermés l'année dernière avec cette histoire du grand attaquant, de la promesse, donc, d'un investissement. Ce qui fait que ça leur a fermé la porte, même à un recrutement d'un numéro 9 de Ligue 1, on va dire même moyen, mais qui aurait quand même été supérieur aux deux qui sont là.
Exactement.
Donc, parce que finalement, s'il prenait
Nolan Roux,
non, mais par exemple, toi, un neuf de ce genre-là, ou des neufs de ce genre-là, il doit y en avoir un petit peu partout, j'ai envie de te dire. Mais au final, si en gros, t'envoyais pas 20 millions, une bonne purée d'oseille, ça faisait pas sérieux. Donc, du coup, ils se sont presque fermé la porte à un 10 millions. En plus, Nolan Roux, ça aurait pas été possible, parce qu'avec Garcia Lille, vu où il le faisait jouer sur le côté, il l'a exilé. Il a un petit peu plombé sa progression.
Jimmy Briand.
Donc finalement, ils se sont bloqués tout seuls avec cette histoire du grand attaquant.
Non, mais je pense qu'ils se sont bloqués avec Balotelli.
Mais ils ont voulu miser sur Balotelli, et là, ça a carrément été un échec.
Parce que là, mine de rien, c'était une aubaine. L'Olympique de Marseille, ne pas mettre un gros transfert dans un tel joueur, parce que quand il est en forme, faut reconnaître que Balotelli t'apporte un plus. Maintenant, je pense qu'ils l'ont vu, comme les Niçois le constatent aujourd'hui, c'est qu'il était complètement hors de forme et que financièrement, ça représentait trop de risques pour l'actionner encore une fois. Parce que si c'était pas un problème d'argent, Gilbert, pour attirer un grand numéro 9, mais Balotelli serait déjà à Marseille aujourd'hui.
Jamal est là, les gars, au 32-16 supporter marseillais. Bonsoir.
Exactement, bonsoir à tous.
Salut, ça va?
Alors, oui, très bien, et vous?
Très bien.
Un grand fidèle, moi, tous les soirs je vous écoute.
Pardon?
Tous les soirs je vous écoute.
Alors écoute, Jamal, merci pour ta fidélité. Bon alors, est-ce que toi, tu crois Jacques-Henri Hérault?
Là, il y a un gros problème. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec vous, là, ce que vous dites. Aujourd'hui, on s'est bloqué sur Balotelli. Alors qu'il y a moins d'un an, il y avait Gomis qui était là. Il suffisait simplement de s'aligner sur ce qu'il voulait. Et on aurait pu avoir un attaquant qui a fini meilleur buteur en Turquie. Et aujourd'hui, le problème, on se retrouve avec trois guignols en attaque. On a Germain, MJ et Mitroglou. Franchement, avec ça, si on arrive à mettre, si on arrive à gagner des points, plutôt à l'extérieur. Ah, franchement, c'est limite un miracle. Les matchs à domicile, en général, moi, je pense que Marseille pourra s'en sortir. L'année dernière, moi, je suis parti au match Marseille-Nice. D'ailleurs, un match qui a été remporté par Marseille. Il y avait de l'ambiance, le stade poussé. On avait clairement Payet. Payet, c'est le meilleur joueur de l'équipe aujourd'hui, clairement. C'est un génie, moi, quand je le vois sur le terrain, avec ses petits dribbles.
Payet, c'est le meilleur joueur. Tu veux dire, sur les deux derniers matchs, c'était le meilleur joueur de l'équipe?
Peut-être pas sur les deux dernières
Et l'année dernière, je veux dire, Thauvin, Luis Gustavo, c'est pas meilleur. Rami, c'est pas meilleur que Payet.
Oui. Alors, Pour moi, Payet, ça reste le génie de l'équipe. Après, Thauvin, il est capable de marquer. Thauvin, quoi qu'il arrive, ça restera un joueur de Ligue 1. Il a tenté l'expérience quand il était plus jeune, quand il est parti à l'étranger. Ça s'est super mal placé du côté de Newcastle. Donc, il ne partira plus jamais, je pense. Parce que déjà, c'est pas un joueur de classe internationale, c'est un bon joueur de Ligue 1.
Jamal,
pour parler de Thauvin, moi je veux bien un bon joueur de Ligue 1, mais quand t'as un bon joueur de Ligue 1, comme tu dis, qui est capable de te mettre une trentaine de buts comme il l'a fait l'année dernière dans un rôle qui est pas un attaquant numéro 9, qui est un attaquant de côté, plus ses passes décisives. Je pense que tu peux pas le réduire juste à un bon attaquant de Ligue 1, quoi.
Jamel, le temps passe. Je te remercie, Jamel. On n'a pas le temps d'aller plus loin, malheureusement, avec toi, parce que Eric Sérieux nous appelle et qu'il y a plein d'autres infos mercato, notamment concernant Lyon à venir. Eric, bonsoir.
Bonsoir. Avec le vieux lion Beneteau qui n'est pas mort ce soir. Et oui, il n'est pas
à la retraite. Salut, à New York. Hein. Là, vous l'entendez, vous croyez qu'il est à côté de nous, mais non, il est bien.
Il s'est qualifié.
Eh oui, il vient de battre Cecchinato, l'Italien, en 4-7. Et donc, on le reverra dans deux jours face à l'Allemand Struff. C'est passé, donc, dans la douleur pour Novak Djokovic, face au Hongrois Fuksovic. Il n'était pas bien au milieu du troisième set, mais finalement, il a mieux géré cette chaleur écrasante pour remporter le match en 4-7. Et puis, Nicolas Mahut est en train de dilapider une avance considérable face à Corentin Moutet, puisque l'Angevin a servi deux fois pour le match. Et figurez-vous, eh bien, Moutet mène désormais 6-5 dans le troisième set. Donc, Mahut 2-7-0, mais 6-5 Moutet. Et puis, Gaël Monfils mène 5-4. Il va servir pour le set face à l'Argentin.
Sinon, en dehors du chauvinisme consistant à parler que des joueurs français, il y a énormément de super matchs.
Il a parlé de Djokovic en premier, je te signale.
Non, mais il y a plein d'autres, joueurs.
Tu l'attaques, là, ouvertement.
J'attaque pas, mais c'est
vrai. Déjà qu'il est supporter de Caen, le pauvre.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, non, mais moi, je veux protéger, Eric.
Non, mais il y a des matchs avec des vrais joueurs. Quoi, tu vois, c'est...
Ah, et Lucapouille, j'ai oublié Lucapouille qui met 7-6-5-2. Hein. Non, mais si on parle pas des Français sur les 4 premiers jours, on n'en parlera plus du tout.
Ah oui, c'est vrai,
t'as raison, pardon, je retire ce que j'ai dit, excuse-moi. Voilà,
merci.
C'est bon, pardon.
Il est allé loin, il a dit 4 premiers jours.
C'est vrai, t'as raison.
Bah non, il y a Caroline Garcia.
Si tu veux des nouvelles de
Caroline Garcia dans ses rêves,
tout va bien.
Ouais, elle s'est qualifiée, Caro.
Oui, on l'a dit tout à l'heure, je crois. 6-2-6-2.
Très bien.
Merci, Eric.
À bientôt.
Tu reviens plus avant minuit là? Non, il y a plus rien.
Bah peut-être la fin de Mahut, mais je vais aller faire l'interview de Caro justement. Donc,
ah bah très bien, bonne interview avec Caro. Juste, alors petite pause et ensuite le reste du mercato. Je signale que les matchs sont finis donc en Ligue des Champions. L'AEK Athènes est bien qualifié un partout face à Videoton ce soir et l'Ajax également 0-0 au Dynamo de Kiev. Donc Young Boys de Berne, Ajax et AEK qualifiés ce soir en Coupe de la Ligue. Je rappelle les qualifiés. Metz, Auxerre, Le Havre, 3. Orléans et Lorient. Daniel,
et la conf d'Héro, en fait, elle n'est pas que je dis une bêtise, parce qu'en fait, elle est suivie par énormément de gens, parce qu'elle est diffusée.
Ah, sur les réseaux de l'OM.
En fait, ce que je disais, c'est pour les journalistes, non, en fait, tous les supporters pour regarder. Et il paraît qu'il y avait énormément de gens qui l'ont regardé. Ça enlève pas non plus l'idée que Strootman, t'es pas obligé de le présenter avec un PowerPoint, je suis désolé. Même les supporters de l'OM, j'espère qu'ils savent quand même qui est Strootman.
Surtout qu'en plus, ils ont OMTV, donc ils sont capables de faire de beaux montages vidéo, j'imagine. Tu fais au moins ça avec ses meilleures actions, ses buts, je sais pas. Bon, bref.
Mais, et juste là, donc, Héro nous expliquera, j'espère qu'un jour il viendra dans l'after pour qu'on lui pose la question, nous expliquera donc que quand t'as deux attaquants qui marquent même pas 10 buts sur l'ensemble des compétitions l'année dernière, t'es satisfait d'avoir ces deux numéros 9.
Bah oui.
Mitroglou et Germain.
Bah c'est ce qu'il dit, il faut le croire.
Hein. Et Engie qui peut jouer en 9 aussi.
Non mais Engie il a dépassé 10 buts, Engie l'année dernière. Non. Bon bah voilà. Donc c'est problématique.
Dans quelques instants, Mercato Lyonnais à suivre. Et puis on parlera de Bordeaux, puisqu'on a appris très tard que Thierry Henry ne viendrait pas. L'avis de l'after, 24 heures plus tard, dans quelques minutes, bien sûr. Et puis l'Italie à venir également, puisque Simone Rovera n'a pas pu tout dire hier. Et quand Simone Rovera n'a pas pu tout dire, il dort dans le studio pour être là le lendemain. Donc il va nous rejoindre dans quelques instants. À tout de suite.
RMC, le football show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten, ils sont là jusqu'à minuit. Le mercato, on l'enchaîne tout de suite. Messieurs, je voulais vous donner les nouvelles de Mariano. Vous avez suivi aujourd'hui.
Ça, c'est quand même une sacrée histoire.
Donc Mariano appartient désormais à Lyon. Mais il y avait dans le contrat une clause qui permettait au Real d'être prioritaire en cas d'achat du joueur. Séville voulait Mariano. Mais Séville a communiqué aujourd'hui disant non, on peut pas le prendre puisque le Real va exercer son option de rachat sur Mariano. Et donc voilà, maintenant il faut donc que le Real se mette d'accord avec Lyon, ce qui n'est pas encore le cas ce soir. Hein. Donc,
Mariano va au Real.
Donc Mariano va retourner au Real.
Il va faire la doublure de Benzema.
Voilà. Exactement.
Et ils vont l'acheter plus cher qu'ils l'ont vendu à Lyon.
Bah là, on parle de 22 millions. Ça. Ah bah là, mais roi de la vente, Jean-Michel Aulas. Ah
mais bien sûr, mais déjà il a vendu des jeunes à des tarifs de malade. Mais qu'est-ce qu'il fait avec l'oseille? Faut qu'il t'achète des joueurs là.
Bah écoute, pour l'instant,
il
vient d'acheter, mais peut-être pas à la hauteur de ce qu'il aurait.
Il faut qu'il prenne du niveau Ligue des Champions.
En tout cas, voilà l'info Mariano du soir. Et puis, info lilloise également à signaler, les gars. Point sur le mercato du Loire. Ça va encore bouger d'ici à la fin de la semaine. Fin du mercato, le 31. Donc, c'est vendredi soir. D'ailleurs, il y aura un petit after spécial mercato. Évidemment, vendredi. Attention, parce qu'il y a plein de monde qui pourra encore partir. Notamment... pour atteindre les 80 millions là. Pour l'instant, ils ont vendu pour 55 millions. Ils ont pour objectif de vendre pour 80. Les Lillois. Alors actuellement, il y a 5 défenseurs centraux. Donc là, il faut qu'il y en ait 2 qui dégagent. Il y a Font, lui vient d'arriver, donc il va rester. Soumaoro, il joue. Il y a Yé, Dabila et Gabriel. Donc les 3 derniers là, ils pourraient partir. Fares Balouli aussi.
On parle de Fares Balouli, on l'a oublié.
Mais Fares Balouli, tu crois que tu vas atteindre les
au milieu là? Oui, c'est... là, c'est pas, tu peux pas vendre 1 million.
15 000 francs. 15 000 euros.
Non, je pense que là, tu le donnes, lui.
Départ possible de Thiago Mendes, de Thiago Maia et de Soumaré. Toujours possible. Enyama est toujours là, il joue jamais avec un gros contrat, il continue à toucher son salaire.
Non, mais tout ça, mis bout à bout, voilà. C'est comme les pièces jaunes, quoi. Au bout d'un moment, ça fait de l'argent.
Enyama. Plus Arojo, Benzia, voire Motiba et Pepe que Galtier veut garder absolument.
En fait, c'est tous les joueurs, quoi. Ah, donc c'est la première offre.
À Lille, ils sont prêts avant tout le monde. Hein.
Ben non, donc les joueurs qui flambent depuis le début là de saison, parce que bon, ils sont quand même bien partis.
La valeur, ça se vend.
C'est eux hein, qui vont partir. Pépé, Bamba, non, ils viennent de le prendre, donc ils vont pas le vendre tout de suite. Bon, mais
s'il y a une offre, ils vendent. Hein.
Ouais.
Ah ben Lopez, ils vend tout. Hein. Il a le stand et tout, il met les produits dessus, ils vend.
Et puis, tiens, je vous dis un petit transfert cette fois moins important, mais tout de même. Honora de Clermont, attaquant, a signé à Saint-Etienne un contrat de 5 ans. Le jeune Franck Honora, qui a également joué à Sochaux et à Nice, me semble-t-il, de mémoire. Voilà. 2-3 petits tweets, les gars. Attention, je rétablis. Jérémy nous dit, stop à la désinformation, il y a bien eu un clip highlight de Strootman lors de sa présentation.
On n'a pas dit qu'il n'y en avait pas eu.
Bon, là, pas,
tu as dit, tu as dit que ça suffirait d'avoir ça et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir
un clip. En plus, c'est encore pire ce qu'il nous dit. Ouais. Ça veut dire qu'il a montré les meilleures actions de
Strootman. Et en même temps, il y avait le PowerPoint pour bien expliquer. Mmh.
Franchement. Ouais. Écoute, moi, je l'aurais mal pris, hein. Je te jure. Franchement, moi, l'année où j'ai signé au PSG, s'ils avaient fait un clip comme ça, j'aurais dit, me foutez de moi, quoi. Mais tout le monde me connaît, c'est pas la peine.
Non, le clip, c'est sympa.
Mais le clip de
c'est
quoi?
C'est le PowerPoint qui est un peu...
C'est bon.
Ah, quoi, ils auraient fait un clip avec tes plus beaux buts avec 3, avec le maillot Rick and Lewis. Après, ils auraient enchaîné avec tes débuts à Caen.
La visite des installations à Blackburn.
Voilà.
Non, ça, c'était après.
Ah, ouais. Ah ça,
c'était après.
Ouais, on se serait régalé à regarder ton clip, là.
Ah, bah ouais. Bon. Je vous en ferai un, si vous voulez.
Dossier suivant, Bordeaux. Attention, Bordeaux, donc pas d'Henri. Je vous pose la question.
Dossier bien épuisé, quand même. Hein.
Ouais, mais quand même. Là, on a... Est-ce que...
Là, on laisse parler Jérôme, c'est le seul qui s'est pas exprimé sur le sujet.
Non, bah ouais, t'as raison.
Ouais, mais il y a des chiffres qui sortent, quand même, puisqu'on parle de l'OM. Donc, le salaire qui aurait pu être celui de Henri, c'était 200 000 euros par mois. Il y a quand même pas mal d'entraîneurs de Ligue 1 qui gagnent plus. Hein, donc c'était pas non plus ouf.
Et pourquoi je comprends pas l'idée, c'est que ça sorte pour dire, en gros, pour excuser la boulette et pour dire, ah, il a demandé beaucoup d'argent.
Bah, ça c'est la ça, justification en fait. Des Américains.
Mais si c'est ça, c'est encore une erreur de communication. Je comprends pas tous ces gens.
200 000, c'est le salaire d'Engie, au passage.
Qui doivent être des experts en communication, qui ont des batteries de mecs autour d'eux pour réfléchir à ce qu'il faut dire et tout. Et ils balancent des saucisses.
C'est pas cher pour Thierry Henry.
Bah, exactement. Puis surtout que lui, il aurait même été même prêt à venir pour
donc
moi.
Ça effacera pas l'idée de boulette.
Moi, je pense qu'il aurait pas dû faire intervenir son agent là, David Dean.
Non mais attends,
qui est arrivé,
non, fils de David Dean.
Ou Darren,
non.
Voilà.
Non mais attends,
qui est arrivé un peu avec ses gros sabots quand même dans cette histoire.
Non mais Gilbert, c'est facile ça. Aujourd'hui, on va me dire, Thierry Henry, il a pas besoin d'agent, il a pas besoin de ceci. Quand tu parles d'argent, tu parles de.
T'obtiens toujours plus avec un agent, tu veux dire.
Mais c'est pas obtenir toujours plus parce qu'encore une fois, et je le sais de sources sûres.
Non mais il peut y avoir des mecs qui se représentent sans que ce soit un problème.
Exactement. Dire, il fait confiance à son agent.
J'espère quand même que l'agent lui a dit je vais demander ça, ça et
non
ça. Et que Thierry Henry a dit
Thierry,
OK.
Thierry, il voulait donc un certain salaire pour déjà arriver quand tu es face aux joueurs quand même, que tu as un certain statut. Alors je te dis pas d'avoir le plus gros salaire de Bordeaux, mais bon, pour moi, l'entraîneur doit être au-dessus de tous les joueurs. Déjà.
Ça, c'était la tactique de Giroud, ça.
Ouais, mais ça me paraît logique.
C'est plus applicable dans beaucoup de clubs, cette histoire-là.
Non, mais à Bordeaux, tu peux. Je te parle pas dans des clubs.
C'est pas forcément utile.
Non,
à partir du moment où t'as une direction qui est solide et des dirigeants qui tiennent la boutique, t'es pas obligé d'en arriver à ce genre d'artifice.
Non, mais ce que je veux dire, c'est, alors je me suis mal fait comprendre, c'est pas que Thierry voulait être au-dessus de tous les joueurs, parce que naturellement, déjà, l'image d'arriver Thierry Henry et qu'il gagne 10 000 balles.
Déjà, il est au-dessus de toute
exactement.
Façon.
Donc,
c'est pour ça que c'était important pour le club et pour la Ligue 1.
Au niveau de l'image, ils auraient dû dû le faire à partir de là, et une fois que c'est sorti, faire les efforts. Thierry, il était prêt à faire des efforts financiers, il en faisait pas une affaire financière, sinon jamais il aurait accepté le challenge girondin, dans tous les cas. Hein, il aurait, s'il faisait une affaire financière, bah, il serait resté consultant, ou il aurait choisi de rester en sélection en étant l'adjoint numéro 1, parce que c'est ce qu'on lui proposait en Belgique, en gagnant beaucoup plus d'argent. Donc c'était pas une affaire financière. Après, il avait des conditions. Comme tout entraîneur, quand t'as un projet qui est intéressant, on te fixe des objectifs. Lui, il fait un état des lieux, il regarde son effectif, il dit, bah, il y a des manques dans cet effectif-là, mais c'est mon cas, c'est le cas de Daniel, c'est ton cas aussi, Gilbert. Parce que quand tu regardes Bordeaux, bien sûr qu'il y a des manques. Ils ont perdu les meilleurs joueurs, ils les ont pas remplacés, du moins, ils les ont remplacés par des jeunes joueurs qui sont peut-être très bons. Moi, j'aime bien le petit Kalou qui monte des choses intéressantes.
Monaco, il a fait un bon match.
Mais ouais, mais il faut laisser le temps. Mais comme l'arrière droit, c'est pareil. Il y a des manques. Donc, il voulait des recrues. Alors, Mercato, la fin, elle arrive vite. Peut-être qu'il pouvait pas lui donner la certitude d'avoir ça.
Il y a un truc moi qui me dérange. J'aimerais vous faire réagir là-dessus. On a reproché à Poyet de faire un tandem avec son agent, et en gros il fallait que ça passe par son agent pour faire les mercato. Donc en gros pour croquer. Là on a Henri qui se pointe avec son agent, qui demande une grosse commission. Et on apprend que dans l'entourage de l'américain Dagroza, qui est le patron de GAPC là, il y a aussi un agent qui lui aussi veut placer ses mecs. Ça, donc en gros maintenant le foot c'est il faut avoir un agent dans sa poche pour croquer, en fait, c'est ça.
Oui, mais alors, en l'occurrence
enfin, c'est un peu gênant.
Non, pour Thierry Henry, on ne sait pas si derrière la famille Dean aurait cherché à placer ses joueurs. C'est pas exactement la même chose. Ouais. Poyet, il y avait véritablement volonté de croquage de joueurs parce qu'il a écarté des mecs qu'on lui proposait pour plutôt réserver des places à ceux qui étaient connus par l'agent. Mais enfin, là, excuse-moi, j'ai bien, mais là, tu découvres quand même.
Ça vient à la marre de ça. C'est-à-dire
que tu découvres l'Amérique, quoi, avec 5 siècles de retard.
Donc le pouvoir aujourd'hui, il est plus que jamais aux agents.
C'est quelque chose qui est quand même assez fréquent dans les clubs qui ne sont pas bien tenus au niveau de l'institution. Il y a quand même un club en Angleterre qui est totalement sous l'emprise d'un agent. C'est pas le seul, hein, mais le fameux club là où Mendes a placé tout,
Wolverhampton,
Espirito Santo et toute sa clique de joueurs portugais. C'est de plus en plus
Moutinho,
ce genre de club-là.
Excuse-moi,
mais par ailleurs, la façon de gérer le club à Lille, c'est tout sauf du football. La façon qu'on va avoir de gérer Bordeaux avec les intentions qu'on a, bah ça va être le même cirque. Dans une certaine mesure, ce qui se passe à Monaco peut également être un petit peu étonnant. Il y a dans le foot effectivement
il y a quand même des différences
de
à Monaco. C'est directement le club qui affiche cette stratégie là oui. T'as pas un agent derrière là à Monaco
et l'agent derrière Mendes à un moment
non, mais de toute façon t'as des agents qui sont plus influents que d'autres.
Il y a une période au début quand Tribolov est arrivé, Mendes oui, il était tous les jours à Monaco, il était à l'hôtel, il avait son téléphone et il se mettait au téléphone de 8h du matin à minuit,
c'est pour ça
qu'il réglait tout.
C'est problématique à terme, parce que quand tu t'enfermes dans cette stratégie-là, c'est pas bon. Après, que ça se passe comme ça dans beaucoup de clubs, et même dans les plus grands, c'est la vérité. Mais encore une fois, je pense que là, on va au-delà de ce que a pu demander Thierry et son agent. C'est pas du tout là-dessus. Thierry, il a pas envoyé son agent en disant aux Américains, écoutez, moi, vous me donnez ça. Du moins, le joueur, l'entraîneur, il veut ça. Il veut ça pour sa famille, il veut ça en termes de recrutement, et il veut surtout que le recrutement, ça soit moi qui le gère. Mais c'est pas ce qu'il a demandé, il est pas complètement fou, Thierry Henry. Bien sûr qu'il avait envie d'entraîner, et c'est pour ça que les premiers contacts qu'il a eu avec les Girondins de Bordeaux, il a dit oui, pourquoi pas. Parce que c'est un amoureux du foot et parce que il a envie de se lancer dans sa carrière d'entraîneur. Mais après, t'es obligé de t'entourer. Et on connaît le football, hein. Quand t'arrives tout seul dans un club, tu te fais manger au bout d'un moment. Si t'es tout seul, t'as pas des hommes de confiance derrière toi, avec toi, c'est pas possible. Tu y arrives pas. Entre les adjoints, entre son agent, bien sûr qu'il faut une relation très proche et très saine. Et que c'est pas le cas de tout le monde. Donc peut-être que ça, les Américains, au bout d'un moment, ils se sont dit « Oh là là, lui et son agent, ça va poser problème dans notre petite magouille qu'on veut mettre en place. » Parce que comme tu l'as dit, là, l'agent là qui est avec les Américains, là, comment il s'appelle ?
Il a un nom...
Varela.
Varela,
voilà. Lui, peut-être que ça posait problème avec ce que voulait mettre en place Thierry Henry.
Deux, trois petites infos encore, les gars. Vous dire que l'entourage de Ben Arfa ne lâche pas le PSG. Jean-Jacques Bertrand, qui est l'avocat de Ben Arfa, était aujourd'hui dans la commission juridique de la Ligue pour demander au PSG des dommages et intérêts. Car il estime que la valeur de son client a été dépréciée à cause de la trop longue période sans jouer, qu'il considère comme une placardisation injustifiée. Alors, on n'était pas présent, mais d'après les infos qu'on a, il aurait même parlé de discrimination envers Ben Arfa. Le PSG réfute l'argument de Ben Arfa en expliquant qu'en fait c'est une décision purement sportive. Donc
attends,
à suivre.
Gilbert, moi j'ai défendu Athem parce que j'estime que ils ont pas été classe à plein de niveaux. Maintenant on est fin août, il a signé où là?
Pour l'instant nulle part. On parle de
Nice.
Il a signé.
Non mais je veux bien que tu l'aies défendu et tout. Pourquoi pas. Mais enfin, ce gars-là plombe sa carrière et toute sa vie a plombé sa carrière avec des mecs qui l'ont filé des mauvais conseils. Ce gars-là devrait s'éclater sur un terrain puisque c'est ce qu'il aime faire. Et ce gars-là ne joue toujours pas. Année après année, quand on aura mis tout bout à bout, il a plus de 30 ans maintenant. Il aura la trentaine. Combien il a? Il a la trentaine.
Oui, il arrive à la trentaine.
Mais il aura fait deux saisons dans sa vie. Bon, voilà, il s'est gâché la vie, le gars. Avec des affaires d'honneur, de tu m'as pas bien traité, tu m'as pas bien ceci, tu m'as pas bien cela. Mec, t'as de l'argent pour toi et tes enfants jusqu'au bout maintenant. Va jouer si c'est ta passion. Va t'éclater un petit peu.
Mais là-dessus, Daniel,
franchement, c'est abusé.
Aujourd'hui, je te rejoins. Autant je te rejoignais pas l'année dernière quand tu tenais un discours.
Mais ça change pas grand chose. Qu'il joue au foot, le mec.
Oui, mais d'accord. Mais il avait son contrat et tu sais.
Il aurait pu le récupérer par ailleurs.
Tu sais comment les paroles, tu sais comment c'est. Peut-être que, et c'est pas peut-être,
aurait,
je te le dis, on lui a fait à l'envers.
Il aurait pu prendre un, je sais pas.
Oui, non, mais attends. Moi, je te dis pas, je le défends sur le fait qu'il ait mis en avant ses droits et tout ça. Mais putain, mais le contrat il est fini. Passe à autre chose. Qu'est-ce que tu vas emmerder le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est aussi Jean-Jacques Bertrand
qui lui a dit moi je suis avocat, je te conseille de faire ça.
Mais déjà il devrait le conseiller parce que c'est vrai que c'est son conseiller. Mais il devrait le conseiller au bout d'un moment. Mais va jouer au football.
Allez, on passe au dossier suivant. Juste avant,
il est libre.
J'aimerais qu'on accueille William qui voulait réagir aux infos bordelaises. Là, il y a ce qu'on a dit. Salut William.
Oui, bonjour à tous.
Salut William.
Bonjour à tous. Je voulais réagir parce que. Bon, on tape beaucoup sur les Américains.
Ouais.
Donc déjà, je voulais dire un truc que c'était Daniel, je crois qu'il a.
Ah, William, on t'a perdu? Où est-il passé, William? Bon.
Sa communication était déjà pas très bonne.
La communication a coupé, malheureusement. On se retrouve dans quelques instants. Je l'espère avec William.
Quand tu vas dire des conneries,
ça c'est
ça coûte,
sûr.
C'est pas mal.
Tiens, dans quelques instants, je vais également vous dire combien coûte en vrai le maillot de 2 étoiles de l'équipe de France. Vous allez voir que les chiffres sont assez étonnants. C'est une petite info comme ça en passant. Ce sera dans l'after. Je rappelle une nouvelle fois que nous avons 3 nouveaux clubs en phase de poule de la Ligue des Champions ce soir. L'AEK Athènes, futur adversaire potentiel des clubs français, tout comme le Young Boys de Berne, qualifié grâce à un doublé d'Oaro, et l'Ajax Amsterdam. Et puis en Coupe de la Ligue, qualification en 16e de Lorient, d'Orléans, de Troyes, du Havre, d'Auxerre et de Metz. A tout de suite dans la fin.
RMC, le football show, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à millionnaire avec Jérôme Rotel, avec Daniel
Riolo
et Simonet
Rovira
qui nous rejoint.
Simonet,
bonsoir.
Ciao, bonsoir, bonsoir.
Mon petit Simonet, avant que tu prennes la parole, 2-3 infos. Vous dire, parce que c'est une petite enquête de Loïc Braillet, vous savez que le maillot 2 étoiles est sorti il y a quelques jours, là, disponible pour tout le monde. 85 € le réplica, 140 € pour avoir le même que celui que portent les joueurs. Alors, on connaît le coût de fabrication, grâce à Loïc, d'un maillot. Vous avez une idée, à votre avis, coût de fabrication de ce maillot?
8,50.
Simonet?
10.
10. Jérôme?
Je m'en cague.
3 €.
Ah, voilà. Bien, ça. Oh, c'est une bonne marge.
C'est une bonne marge.
C'est bien.
Précisons que tout ne va pas dans la caisse de Nike. 16%
combien
du prix
c'est
du maillot.
Le prix du 100.
80 balles.
85, le réplica. 140, le même que les bleus.
Enfin, ça vaudrait pour plein de produits. Là, t'es en train de nous faire le truc.
Évidemment. Pour vous lire, Nike encaisse 16% du prix. La marge la plus importante revient au réseau de distribution. Par exemple, vous l'achetez, je sais pas, à Decathlon, par exemple. Voilà, c'est eux qui en prennent le plus. 63% du prix du maillot, donc, pour le distributeur. 4,5% à la Fédé.
Tu vends des maillots de foot à Decathlon?
Bah oui.
Ah, je savais pas.
Ça fait longtemps que t'as plus fait de sport, toi. Tu vas pas à Decathlon. Tu n'as pas Decathlon pour t'acheter des raquettes de tennis?
Non.
Non, d'accord.
Je les achète chez des spécialistes.
Ah, bah oui.
Très bien.
N'oublie pas que j'avais reçu des balles Decathlon qui étaient,
Daniel.
Étonnamment de bonne qualité, parce que rappelle-toi qu'un de nos auditeurs était directeur d'un Décathlon dans le Nord, à Lille, je crois, et qu'il nous avait envoyé un paquet, rappelle-toi,
oui,
avec des balles.
On avait dit que c'était pas terrible.
J'avais dit, je peux pas jouer avec des balles Décathlon, il m'avait dit, bah, essaye-la et tu vas voir. Et j'avais essayé, franchement, c'était pas mal du tout.
Mais
très étonné.
Mais quand même, le joueur que t'es, tu payes plus tes raquettes maintenant.
Non, mais bah voilà. Pas trop dur. Moi, je suis pas comme toi, je me vante pas. Et tout, donc,
je signale quand même le dernier chiffre.
Oui, voilà, on est sponsorisé. Quoi.
1% du prix du maillot revient au salaire des ouvriers qu'ils fabriquent, notamment en Thaïlande. Sinon, mon petit Simonet, une info qui n'a rien à voir avec l'Italie, mais qui va peut-être ouvrir des perspectives à beaucoup de monde. Liverpool a recruté aujourd'hui Thomas Groenemark. Ce mec-là sera responsable entraîneur des touches. Et c'est pas une blague. Il sera entraîneur des touches. Le mec, et on voit l'image sur RMC Sport News, a le record de la touche la plus longue, 51 mètres. 51 mètres, vous ne rêvez pas. Et alors, le truc qui est quand même sérieux, c'est qu'il a fait la même chose entraîneur touche au Danemark. Et les deux clubs avec lesquels il a bossé ont marqué plus de 20 buts sur les touches longues lors de la saison.
C'est novateur. Oui, ça va effectivement apporter quelque chose.
Entraîneur touche.
C'est quoi ces deux clubs là de danois?
C'est le club de Midtjylland.
Ouais, mais là-bas, c'est ils jouent comme ça. Ils souhaitent des grosses patates, des grands,
c'est ce que
des grandes
touches. Allez, vas-y.
Tu te souviens pas, il y a une époque là en Angleterre, il y avait le, c'était à Stoke City qui avait l'arrière droit qui était spécialiste de ça. Voilà. Il aimait bien. Bon, voilà, c'est un style.
Entraîneur touche. Tiens. Voilà, c'est donc ça. On va voir ce que ça ce que ça donne. Si ça donne des buts à Liverpool, c'est une petite nouveauté.
Super.
Et on en arrive à l'Italie, mon petit Simonet. Alors hier soir, j'étais pas là, mais cet after devait être très mal organisé par Nico Villas, puisque apparemment tu t'as pas eu le temps de dire ce que tout.
C'est passé plein d'actualités, surtout sur Bordeaux.
Il y a eu Strootman qui lui est tombé sur le coin du nez quand même.
Ah,
c'était mal. Mais j'ai vu que ce soir vous avez plutôt bien respecté l'Italie. Inter, difficile tirage pour le chapeau 4, Naples pour le chapeau 2 pour Paris, et je vous dis oui, c'était, c'est bien de voir les respects qui montent, non, mais pour cette série.
Sur ces derniers mois,
combien tu nous annonces d'équipes en huitième? Les quatre?
Oui, ça dépend du tirage, surtout pour l'Inter.
Et pour l'Inter.
Mais ça pourrait être même quatre.
Ton équipe de l'Inter, là, qui joue le titre, et combien ils ont déjà de points de retard au bout de deux journées, là, sur la...
5.
Ah oui.
Pas 6.
Il faut qu'ils se dépêchent, parce que, ça grandit vite.
Ça, c'est le plus gros chantier de la saison, on peut dire, de la Serie A. On peut commencer par ça, la déception de l'Inter, qui avait deux matchs pas impossible, ou je vais me dire plutôt simple, c'était Sassuolo et Torino à domicile, et on retrouve un Inter qui a rien à voir avec celle qui avait séduit la fin de la saison dernière. C'est lui qui avait de l'enthousiasme, qui avait quelque chose de qui reprenait, qui prenait vraiment ce que Spalletti voulait, une équipe qui luttait, qui avait de la verticalité, qui allait vite. Et là, cet Inter, aujourd'hui, n'a rien à voir avec celle de la saison dernière, non, ni de la fin de saison.
Peut-être se mettre en place, on va pas non plus paniquer tout de suite, quoi.
Bien sûr.
Surtout qu'ils avaient ils ont pas eu tous leurs joueurs, là, sur les deux premiers matchs.
Ils ont pas tous les joueurs, face à Torino, Spalletti a cherché d'échanger des systèmes avec une défense à 3, qui c'est la première fois qu'il l'a essayé, donc ça marche pas encore. Surtout, il n'y a pas un Nainggolan, qui était un peu la recrue phare,
franchement, Nainggolan, ça va être compliqué.
Ça va être un
Nainggolan, déjà, il était moins fort qu'avant à la Roma.
Et la Roma l'a fait partir sans regret.
À la Roma, t'es quand même un petit peu contrôlé quand tu sors et tout, machin.
Ouais,
à Milan, ça va être le festival.
La Roma, elle était contrôlée plus par les supporters que par les clubs.
Bah, c'est ce que je dis. c'est ce que je veux dire. À Rome, si tu sors, tu fais la fête et tout, au bout d'un moment, t'as quand même un supporter qui va venir te dire, elle va rentrer te coucher. Ce qui était déjà arrivé, d'ailleurs.
Oui.
Ce qui était déjà arrivé.
À Milan.
C'est un peu plus
dur. Mais c'est déjà arrivé à Nainggolan, à Milan. C'est-à-dire, elle est sortie une soir, elle était réprochée par les supporters, qu'est-ce que tu fais ici?
Parce qu'en plus, les supporters de l'Inter, ils sont pas super gentils.
C'était pas simple.
Les supporters de l'Inter, c'est pas les plus conciliants.
Oui, mais c'est de la Roma. Après, tout doit se mettre en place encore à l'Inter. Le problème est que on avait beaucoup d'attentes.
Ça me fait peur cette histoire. Un mec, il peut sortir, boire de l'eau et puis.
Non, mais Nainggolan est blessé. Il n'a pas encore joué un match officiel cette saison. Il s'est blessé il y a 3 semaines. Un peu la question, c'est de dire est-ce qu'il va vraiment revenir et va être important pour l'Inter, comme il devait être sur les papiers après
avoir été la recrue un peu star de
ce mercato. Tu peux dire un peu l'Inter, c'est quoi? Parce que effectivement en Italie, tout le monde a dit cette année c'est le rival. Ils ont fait une belle fin de saison. S'ils recrutent,
c'est quoi
en fait l'équipe? C'est pour qu'on comprenne un peu.
Andanovic dans les buts. Versalico,
bon gardien. Donc Versalico, l'arrière droit croate.
Il y a Devraï et Skriniar en défense. À gauche, Asamoah qui est arrivé de la Juve. Milieu de terrain, Brozovic, Vecino et Nainggolan.
Vecino qui est l'Uruguayen, qu'on a vu également à Lyon.
Perisic, Icardi, et à droite, en théorie, devrait jouer soit Politano, soit Keita Balde qui vient d'être recruté.
Ah oui, c'est vrai que Keita Balde vient d'arriver.
C'est quand même une Inter sur le papier très séduisant. Ouais. La différence entre la saison dernière, c'est que Spalletti avait démarré très très fort, 4 victoires d'affilée, 9 victoires sur les premières 11 matchs de la saison dernière.
Après, il avait un gros trou.
Oui. Et c'était un travail quand même, lui aussi, il venait d'arriver, on disait, on voit la main de Spalletti. En ce moment, on trouve que les chantiers, c'est un peu plus long à mettre en place. Peut-être la préparation a été faite pour être bien pour la Ligue des Champions. Mmh. La saison dernière, il n'y avait pas cette priorité. Donc, on se pose beaucoup de questions. C'est sûr que quand tu vois la force
c'est
de la Juve...
C'est quoi le prochain match?
Les prochains matchs, c'est à Bologne. Donc, c'est un peu le match que tu dois gagner.
Là, maintenant, il va falloir démarrer, là, c'est sûr.
Donc, mais quand tu vois les belles réponses qu'a déjà donné Napoli, et je suis toujours plus surprise de voir Ancelotti avoir déjà gagné toute la confiance de ses joueurs, pas de l'ambiance.
Ça, c'est pas vraiment étonnant. Ancelotti, il est fort pour ça.
Mais on disait qu'il y avait on parlait de la magie de Sarri la saison dernière. Combien de fois? Les pactes du vestiaire, tu te rappelles? Il y avait quelque chose.
La magie de Laurentiis, ça a été d'effacer le départ de Sarri en recrutant Ancelotti. Ça, c'était un coup.
Bien sûr, qui a mis à terre tous les rumeurs aussi des supporters, tous les bruits des supporters, parce qu'il n'est pas arrivé les grands avant-centres, on parlait de Cavani, de Benzema, rien n'est arrivé. C'est vraiment la même équipe de la saison dernière, plus
moins
Fabien
Jorginho,
Ruiz, Malcui, moins Jorginho. Et donc il y a un changement de type de jeu, Ancelotti l'a dit, encore aujourd'hui, qui veut plus de verticalité.
Sauf que lui, il va peut-être faire jouer un peu tout le monde, alors que Sarri ne faisait pas jouer tout le monde, parce qu'il tournait souvent avec les mêmes.
Déjà, Ancelotti a dit qui veut faire jouer les quatre attaquants ensemble, donc Caleone, Milik, Mertens, Insigne. Ça va donner un gros mal de tête, je pense, aux défenseurs adverses, mais aussi à lui de mettre ensemble toute la qualité. Mais l'a toujours fait au Real Madrid avec Di Maria au milieu de terrain, au Milan quand il jouait avec Kaká, Seedorf, Pirlo, Rui Costa, tout le monde ensemble. Donc, c'est les paris d'Ancelotti, et au-delà d'un mercato qui pouvait être beaucoup meilleur de Laurentiis, Ancelotti est en train de gagner un peu son pari d'être ce que manquait la saison dernière au Napoli pour gagner le titre. Ça pourrait être gagné.
Donc là, le Napoli, là, qu'on voit là, sur les...
C'est le Napoli qu'on a vu ce week-end. En plus, sortir Hamsik, qui joue un peu plus bas devant la défense et peut être aussi mis en danger cette année parce que il doit s'adapter à ses nouveaux rôles.
S'il joue avec les quatre devant, comme tu viens de dire, forcément, il faut deux milieux de terrain qui ont un gros volume de jeu. Hamsik, malheureusement,
donc,
aujourd'hui,
Alain,
c'est plus trop
Alain,
le...
Et peut-être Diawara à ses côtés, qui c'est un autre, quand même, qui a un impact très fort.
Dis-moi, une question plus générale, là. C'est excitant, cette année, quand même, l'Italie. Enfin, est-ce qu'il y a un truc, une espèce de mayonnaise qui prend, tu vois? Moi, je sais pas, je trouve qu'il se passe plein de choses cette année. Moi, ça me donne envie de regarder.
Tu veux
plus
dire
qu'il y a
plus de concurrence. La Juve risque encore une fois quand même de se détacher, mais derrière,
il y a des
Naples,
l'autre jour,
Roma,
tu parlais du Milan AC, tu les voyais comme une équipe surprise.
Moi, je continue à croire que Milan peut être une belle surprise, parce que déjà la saison dernière,
Milan, mais même si c'est une surprise, c'est difficile de les imaginer devant Inter, Roma.
Mais exactement.
Non. Peut-être pas, mais s'il y a une équipe qui n'arrive pas à rendre comme il faut.
La claque que Gattuso il a mis à Bakayoko là. Waouh. Oh, vous avez entendu ce qu'il a dit?
Non.
Il a dit que
Bakayoko, premier match, donc ça recrue là.
Ouais.
Ouais, le problème avec lui, c'est qu'il va quand même falloir lui faire faire des progrès et déjà lui apprendre à contrôler un ballon dans le sens du jeu.
C'est
pas toujours facile, mais on va essayer d'y arriver.
Ça montre que Gattuso, au-delà d'être, qu'on peut dire, c'est lui qui donne la rage et un peu
un
dopage émotionnel, c'est quelqu'un qui sait et qui veut faire travailler les joueurs dans le sens de les améliorer à niveau technique.
Enfin, normalement, ça, c'est pas le genre de progrès que tu, normalement, il devrait savoir le faire.
Tu sais que
Sarri,
dans ses premiers entraînements,
t'es en train de me dire que là, il veut faire progresser ses joueurs techniquement. Non, mais attends, quand t'as passé un âge.
Sarri, dans ses premiers entraînements à Napoli, il expliquait à Raoul Albiol comment mettre les pieds parallèles à la ligne de la surface pour avoir la possibilité de bouger mieux. Et on parle d'un joueur qui avait déjà joué au Real Madrid. Et ça arrive.
Mais c'était plus dans son jeu de se mettre vitre vers l'avant. En fait, il a modifié Albiol dans ce sens-là.
Oui, mais
là,
pour
comme
te dire...
il l'a dit à Bagayoko, ouais. C'est vraiment genre, c'est... putain, mon vieux, t'as les pieds carrés, quoi.
Tu vas refaire les gammes.
C'est vraiment
quoi.
Ça. Sarri, c'était pas de t'as les pieds carrés, c'est genre.
Mais Milan, rapport à la
oui, oui, oui. Alors, il nous reste 3 minutes, Simonet. Le fait que Cristiano ne marque pas encore, est-ce que c'est un problème?
Non, aujourd'hui, il était quand même célébré l'effet que c'est les joueurs qui frappent le plus vers le but en Italie.
Donc, alors, pas aujourd'hui, il a foutu son fils à l'école de foot, par ailleurs, à la Juve.
Ah oui,
il a dit, lui, il deviendra comme moi, j'en suis sûr à 100%.
Il a même gagné
pas du tout la pression, le gosse.
Ouais, le gosse, il n'y a pas de pression.
Pas de pression,
non,
le gosse.
Non, mais il y a un problème.
Par rapport à Ronaldo, la Juve, ils ont vraiment le truc en tête, c'est on s'en fout, mais alors complètement qu'il en mette 50. Hein. Non, d'ailleurs, ils sont tous persuadés, nous, chez nous, il n'en mettra pas 50. En Italie, t'as pas de mec qui mette 50 buts.
Ouais, ouais.
Nous, ce qu'on veut, c'est au mois de mars.
Ouais.
C'est Cristiano bon maintenant à la Juve, ils sont rien à tirer. Eux, c'est objectif, c'est cette année ou jamais.
Deux choses sur la Juve.
C'est au mois de mars qu'on t'attend.
Ouais. Cristiano, quand il était présenté avant les matchs à Juventus Stadium, comme les autres. Il n'y avait pas un passerelle, il n'y a rien. Ils n'ont pas fait pour la première fois à Juventus Stadium, Cristiano, non, rien, comme les autres. Composition d'équipe, lui, un des autres. La Juve ne fait pas de lui, ne fait pas des tonnes. Il y a un grand joueur qui est dans un grand club, ça c'est la vision de la Juve. Les points d'interrogation chez les Bianconeri, c'est Dybala. Dybala, 90 minutes sur le banc face à la Lazio. La saison dernière, il était resté une seule fois 90 minutes sur le banc. C'était en décembre, à la 18e journée, face à la Roma. Il avait commencé avec 10 buts en 6 matchs. Aujourd'hui, on se pose même la question, quel va être le rôle de Dybala, dans quelle position il va jouer, est-ce qu'il va jouer? Donc, Cristiano, peux-tu faire? C'est vraiment les joueurs qui, même à niveau médiatique, ils ne peuvent pas marquer pour 3-4 matchs avant de commencer à poser des questions. Il y aura du temps. Mais Dybala, l'avenir de Dybala, les présents de Dybala, combien de matchs, combien de buts va mettre Dybala, c'est la plus grande question cette semaine en série.
Après, Dybala, il pourra jouer contre des équipes déjà dans le championnat italien qu'ils vont dominer, je pense, encore une fois. Il pourra jouer dans un système différent. C'est vrai que là, s'il part sur l'équipe qu'il a mis avec ses trois milieux de terrain et ses trois attaquants sur la largeur, c'est-à-dire Ronaldo côté gauche, Douglas Costa ou Bernardeschi côté droit et Mandzukic dans l'axe.
Mandzukic va devenir incontournable, à mon avis.
Ah bah dans ce rôle-là, oui, parce que à l'arrivée, beaucoup pensaient.
C'est obligé parce qu'il faut un neuf.
Non, mais beaucoup pensaient, Daniel. Quand tu recrutes Ronaldo, c'est pour le rapprocher de la surface, un peu comme il faisait au Real Madrid, et puis un attaquant de côté.
Mais il a besoin. Sauf que là, il a besoin du neuf. Ouais, ouais. Il a toujours besoin du neuf.
Exactement. Donc, est-ce que Dybala pourra prendre la place de Bernardeschi ou d'un Douglas Costa?
Bernardeschi, c'est plus milieu de terrain. À la Fiorentina, il jouait même latéral dans une 3-5-2.
Ouais, mais là, il joue à droite.
Simonet.
Donc, ça veut dire, Dybala peut finir sur le banc.
Il y a quand même de bonnes chances qu'on te retrouve jeudi pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, mon coco. Hein.
Oui. Des bonnes chances. Ça va être dur.
Ouais, mon vieux, l'année dernière, t'es allé jusqu'en demi. Bon, après, certes, t'as passé un été compliqué. Mais là, tu reviens. Les quatre équipes. Si un bon tirage.
T'as un championnat avec du suspense. T'as quatre équipes pour les Ligue des Champions.
Ça peut être ton année.
Les quatre belles équipes, hein.
Non, mais arrêtez avec le championnat à suspense. Ça va être la Juve. Là, ça sera le suspense pour la deuxième, troisième, quatrième place. Mais pas pour le titre.
T'as des suspens pour la deuxième, troisième
place. Oui, oui. Il y en a dans beaucoup de championnats. Nous aussi, on l'a.
Et attention.
Le suspense.
Et attention.
Par contre, les vacances t'ont pas fait de bien pour langage.
Ah bah t'es parti en Italie en vacances.
Pour les langages. Ah ouais, voilà. J'ai un peu perdu l'habitude.
Ouais, t'as passé deux mois en Italie. Là. Oui, oui. D'accord. Bon,
c'est mais italien, il voyage pas
trop.
Si, pour aller à la plage.
Bah si, quand même. Mais en même temps, tu sais, quand t'es dans le plus beau pays du monde, c'est difficile de bouger, quoi.
Ouais. Manger, la plage, les lacs, c'est fini.
Il y a tout sur place.
Merci Simonet pour ces conseils de vacances.
Bravo,
c'est fini pour ce soir. La Coupe de la Ligue, je rappelle les qualifiés, Lorient, Orléans 3, Le Havre, Auxerre et Metz. En Ligue des Champions, la EK Athènes qualifiée pour la phase de poule, l'Ajax Amsterdam et les Young Boys de Berne. Demain soir, nous serons là à 22h pour 2h d'after, bien sûr, avec plein de nouveautés. Demain, donc on se retrouve demain, les gars.
Allez, à demain.
Daniel, ciao. Jérôme, merci Simonet, à demain.
Ciao.
RMC, le football show, l'After Foot.